là et il va toucher quelques maladies au milieu de nous. Apprêtez-vous à recevoir de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a montré qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui a une tumeur quelque part qui a des répercussions jusque dans sa nuque. Eh bien, le Seigneur va faire fondre cette tumeur.
Amen.
Et va écarter merci. Tout danger de ta vie.
Alléluia.
Alléluia, merci, alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh. Il y a une personne qui fait de temps en temps des hémorragies internes dans une certaine partie de son organisme. Et cela te met parfois en danger. Eh bien, le Seigneur stoppe cette hémorragie. Définitivement, c'est la main du maître, le doigt du maître qui se pose sur ce problème et qui l'écarte de ta vie et de ton corps. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Loué sois-tu, Jésus.
Oh oui, Seigneur.
Quelqu'un qui a une espèce de problème sous la langue et que le Seigneur règle aussi. Alléluia. Sous la langue, et le Seigneur a dit, je le fais disparaître comme de la fumée dispersée par le vent.
Merci.
Alléluia, parce qu'il est le maître des vents.
Amen.
Et des tempêtes.
Oh oui.
Et quand il fait disparaître quelque chose.
Merveilleux sauveur.
Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.
Dieu de l'impossible.
Il y a aussi
Alléluia. Une
glande au milieu de nous qui est en panne. Elle a cessé de fonctionner et le Seigneur dit, je la remets en place.
Amen.
Je la remets en marche.
Amen.
Et tu vas t'en apercevoir. Il y aura quelque chose dans ton organisme qui te montrera que cette glande s'est remise en marche. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur.
Alléluia.
Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le fais. Alléluia, Seigneur.
Alléluia.
Et il y a une personne qui croupit dans l'angoisse, m'a dit le Seigneur. Je viens aujourd'hui te libérer de cette chaîne.
Amen.
Je suis ton grand libérateur.
Oh, merci.
Et maintenant, toutes tes craintes s'évanouissent comme neige au soleil.
Amen.
Et une grande paix a envahi ton cœur et ton âme.
Alléluia.
Recherche ma présence, te dit le Seigneur,
Amen.
Dans ta vie, et qu'elle te soit plus précieuse que toute autre chose. Alléluia, Seigneur. Et le Seigneur s'adresse aussi à une personne qui est venue comme écrasée par un fardeau moral à cause d'une situation familiale lourde à porter. Le Seigneur vient te dire, mon enfant, viens te blottir dans mes bras. Dès le début de cette histoire, dans ta famille, j'ai entendu chacun de tes cris et chaque soupir. Viens déposer ton fardeau. Laisse-moi le porter et que ma paix divine t'inonde aujourd'hui. Retourne chez toi et prends conscience que ton fardeau est maintenant le mien et non plus le tien. Et réalise que je prends soin de chacun de mes enfants.
Amen.
Tu es mon enfant et je m'occupe de toi et de ta situation.
Amen.
Alléluia, Seigneur. Et le Seigneur touche aussi un œil défectueux. Moi, ton Créateur, ne suis-je pas celui qui l'a créé, ton œil? Aujourd'hui, je suis venu le redessiner.
Alléluia.
C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je suis venu le redessiner.
Alléluia.
Redessiner les contours de ce qui a été abîmé. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Tu n'as pas changé. Une personne souffre de maux dans ses reins. Et tu as parfois de la peine à te courber, à te baisser. Et là aussi, le Seigneur met du baume dans tes reins.
Alléluia.
Pour que tes reins fonctionnent à nouveau normalement, que tu puisses te baisser correctement sans souffrir. Et quelqu'un qui a des tendances de phlébite parfois, eh bien le Seigneur vient aussi régler ce problème de phlébite.
Alléluia.
Un système nerveux complètement détraqué. Comme je Montre-le. Je peux, dit le Seigneur, comme je peux recréer un poumon ou un œil manquant. Je peux rétablir un système nerveux complètement abîmé. Ces circonstances difficiles qui sont venues abîmer tout ton système s'en sont allées à cause de ma présence maintenant. Et en ma présence, dit le Seigneur, les ténèbres s'enfuient. Reste maintenant à mes pieds et ces ténèbres ne pourront plus revenir. Nourris-toi de ma parole qui sera une source de vie et d'épanouissement pour toi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu connais chaque petite souffrance, cachée ou connue. Tu les connais. C'est ta main. C'est ta main, Seigneur. Tu es merveilleux. Jésus, merci.
Merci, Seigneur.
Merci, tu es le bon berger des brebis. Rien ne t'échappe. Aucune cellule. Rien. Rien. Petit ou grand. Tu sais t'occuper de chaque problème. Et tu bénis ces personnes qui sont venues te rencontrer, Seigneur. Tu les as touchés. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ton admirable présence qui réchauffe nos cœurs, qui apaise nos anxiétés, nos angoisses, qui nous donne, qui nous communique cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous voulons la garder précieusement dans notre cœur. Le Seigneur nous dit simplement « Paix vous soit ». Comme il l'a dit à ses disciples, « Paix vous soit ». Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et gardez vos pensées, vos cœurs, vos yeux tournés vers lui. Blottissez-vous dans ses bras. Agrippez-vous à lui. Quand les circonstances sont difficiles, agrippez-vous à lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, nous ne voulons rien faire, Seigneur, sans toi. Rien. Seigneur, nous sommes dépendants de toi et nous sommes heureux de l'être. Gloire à toi, Seigneur.
Amen.
Là maintenant, j'ai juste un tout petit témoignage encore, qui sera pas long. Et je vais juste prendre un passage du psaume 146 qui dit « L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. » Et l'année dernière, c'est ce que le Seigneur a fait encore. Il en a fait, hein, à cette seule convention où on était peut-être pas beau. On n'était pas beau, comme ici peut-être. C'est une certaine dame de Dijon, en France, qui est venue à cette convention-là aussi. Et elle dit, elle était courbée, elle, justement, de douleur affreuse. Depuis plus de 2 ans maintenant, je souffrais de violentes douleurs qui me faisaient hurler et qui peu à peu me rendaient grabataire. Elle était comme infirme. À peine 1h30 levée, je devais me recoucher pendant 2 heures et plus. La ronde des médecins, rhumatologues, kinés, etc. avait commencé. Mon état s'était légèrement amélioré par la prise de médicaments. Mais il a fallu leur ajouter des antidépresseurs, car en plus de vertèbres usées, aplaties, il y avait bien entendu la déprime, la dépression. Je ne pouvais jamais travailler un tant soit peu penché, plus faire de repassage, plus de ménage. Je devais absolument éviter tout effort, toute fatigue, et c'est seulement ainsi que je m'en sortais et que j'arrivais à tenir. Mais la guérison était encore très loin. Alors, elle est arrivée à notre convention le dimanche matin à l'hôtel après avoir fait 350 km. Et là où elle avait beaucoup de mal à marcher. Elle avait même, il y en a d'autres de la convention qui l'ont vue à l'hôtel, qui étaient dans le même hôtel. Et elle avait même de la peine à porter son sac à main, pour vous dire. Dans quel état elle était. Son sac à main, elle avait la peine à le porter. Et je restais la plupart du temps assise. Ce matin même, j'avais déclaré à un frère en Christ, je ne refuserai pas une parole de guérison. Le Seigneur a entendu ça. Rien que ça. Voyez, des fois, il n'y a pas besoin de grandes prières. Je ne refuserai pas une parole de guérison. Alors voilà qu'au cours de la réunion, le Seigneur me donne une parole qu'il guérissait une colonne vertébrale produisant de fortes douleurs lombaires. C'était exactement mon cas. Je souffrais précisément de douleurs lombaires extrêmement violentes. Je me suis aussitôt emparée de tout mon cœur de cette guérison. Si tu reçois une parole, il faut la prendre. Il faut la prendre. Le Seigneur m'a touchée. Il m'a guérie à ce moment-là. L'après-midi même, je pouvais à nouveau me tenir droite. Donc elle était courbée. Justement, comme dit la parole, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Alors elle s'est redressée pour la première fois depuis 2 ans. Je n'avais plus aucune douleur. Aujourd'hui, elle dit cette âme, personne ne me reconnaît. Depuis 15 jours, je me lève sans aucune douleur et je peux de nouveau, librement servir et desservir à table. Il y a quelque temps encore, personne ne me laissait me lever, voyant la douleur que cela engendrait. J'ai même encore parfois le réflexe de m'attendre à une douleur quand je fais un mouvement brusque et suis surprise de l'absence de douleur à chaque fois. Cette guérison est une victoire éclatante. Trois semaines après cette parole, je confirme que je suis complètement guérie. Ma guérison est effective et considérée comme telle par tout mon entourage. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, rempli d'amour, et il tient ses promesses. Alléluia, Seigneur. Nous voulons encore te rendre gloire pour Marie-Lou, la courbée que tu as redressée ce jour-là. Pour Yvette, celle qui avait les tumeurs dans son cerveau et qui était mourante. Pour Claudia, qui avait toutes sortes de problèmes, asthme et compagnie, son foyer, séparé presque. Et Marie-Lou, qui était courbée. Seigneur, sois béni, sois adoré, sois loué. Nous voulons te rendre gloire, toute la gloire qui te revient. Car toi seul, tu peux faire de telles choses. Sois béni, adoré par tout ton peuple ici présent et que chacun puisse se réjouir de tes œuvres. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Inspire selon les besoins de chacun que nous puissions encore voir ta gloire et obéir à ta voix surtout, car c'est ainsi que tu es réjoui et que tu peux bénir nos vies. Merci Seigneur. Nous comptons sur l'assistance du Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne les voies du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous continuons donc la méditation commencée ce matin sur l'examen d'un vrai converti selon la parole de Dieu. Nous avons vu 3 vérités importantes. La première vérité concernant un vrai converti, il croit que seule la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est l'autorité finale de notre foi. Un point très important. Deuxièmement, il croit que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair. La deuxième personne de la Trinité divine. Et nous avons vu ensuite qu'il croit que seul le sacrifice de Jésus, le sacrifice parfait de Jésus sur la croix, peut ôter ses péchés. Rien ne peut ôter le péché de quelqu'un que le sang de Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Dieu ne pardonne pas comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose? Ça va, je te pardonne. C'est pas comme ça que ça va. Avant que l'amour de Dieu pardonne, la justice de Dieu doit être satisfaite.
Bien sûr.
Si nous avons péché, nous avons offensé Dieu. Nous avons déshonoré Dieu. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Et cette transgression mérite la mort. C'est la justice divine qui demande cela. Et comme Dieu ne voulait pas qu'on meure, qu'on soit perdu, il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que la peine de ton péché, Jésus l'a subie à ta place. La justice de Dieu est satisfaite. Et parce que sa justice est satisfaite, le péché a été jugé, ton péché a été jugé en Christ, sur la croix. Dieu nous dit maintenant, si tu crois au sacrifice parfait de Jésus, tu peux être pardonné, car ce sont tes péchés qu'il a portés. Si tu le crois, il devient ton sauveur. Il devient celui qui te sauve. Mais si tu ne crois pas cela, ton péché demeure sur toi. Et la peine du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Si l'homme n'accepte pas le sacrifice de Jésus comme l'offrande que Jésus a dû payer pour nous pardonner, l'homme doit payer de sa faute. S'il n'accepte pas le remède divin, il doit payer de sa faute. Il ne peut pas passer comme ça et dire, je peux passer entre les gouttes. Ça ne marche pas. Dieu est saint. Aucun péché n'entrera au ciel. Si nous n'acceptons pas le remède divin, nous devons payer nous-mêmes. La peine de nos péchés. Et comment devons-nous payer cela? La mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. Ce sont là aussi des vérités qu'on n'entend pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? On n'entend pas beaucoup. Mais laissez-moi vous dire, c'est une vérité biblique. Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Ne l'oublions pas. Ce sont des vérités extrêmement importantes. Seul le sacrifice parfait de Jésus a payé ta dette. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ta religion, tes larmes, tes prières, quelqu'un d'autre ne peut pas prier pour toi pour te sauver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Il faut l'admettre. Et c'est quand on dit qu'on ne peut pas payer notre dette immense que Dieu nous dit « quelqu'un a payé pour toi ».
Alléluia.
Qui est-ce? C'est Jésus.
Amen.
Jésus, celui qu'on nomme le sauveur. Car Jésus veut dire sauveur. Sauveur. Libérateur. Voilà ce que le nom de Jésus veut dire. Mais s'il n'est pas ton sauveur, tu dois payer ta dette éternellement en enfer. Parce que Dieu est saint. Il ne veut pas dire comme je l'ai dit, ça va, on n'en parle plus, ça ne marche pas comme ça. On tourne la page. On a une conception de Dieu qui n'est plus du tout la conception biblique de Dieu. On a fait de Dieu un bon Dieu, n'est-ce pas vrai?
Voilà.
Dieu est bon, mais ce n'est pas le bon Dieu. Dieu est bon. Mais celui qui se repent, parce qu'un jour la Bible parle de la colère de l'agneau. Qui disent comment la colère de l'agneau? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'ai cru que Dieu était un Dieu d'amour, colère de l'agneau, mais c'est pas possible que Dieu soit comme ça. Tu ne connais pas cet aspect de la sainteté divine. Tu ne connais qu'un aspect qui t'intéresse, mais l'autre aspect qui te dérange, tu n'en veux pas. Mais tu dois faire face à ces vérités. Si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras dans l'au-delà, mais ce sera trop tard.
C'est ça le drame.
Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le mot de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Le mot du diable, c'est toujours demain.
Oh.
Demain. Ouais. Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous dit, maintenant, mets ta vie en règle. Il y en a un autre qui vient tout de suite. Non.
Ah. Plus tard.
Attention. Ne deviens pas un fanatique. Demain, pas maintenant. Ah oui, et on remet ça demain. Et le lendemain arrive, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, maintenant, je vais... D'un coup, il revient encore. Ne presse pas. T'es un peu fatigué. Calme-toi. Demain. Demain. Et c'est ainsi que l'enfer est peuplé de personnes rongées par le remords d'avoir dit demain. Et ce demain n'est jamais venu. Que le Seigneur nous donne d'être conscients de ces vérités qu'on n'entend plus beaucoup dans les églises aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Quelle tragédie! Et pourtant, Jésus et les apôtres l'ont enseigné. Allons un peu plus loin maintenant. Quatrième vérité, qu'un converti doit croire, admettre, il croit en la résurrection de Jésus. Car si Jésus n'est pas ressuscité des morts, on est encore dans nos péchés, nous dit l'apôtre, n'est-ce pas vrai? Notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Alors la référence, c'est toujours Acte 17, verset 3, voyez-vous. J'en suis toujours au verset 3. Non, pardon. Acte 17, ah oui, c'est là, voilà. C'est bien 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir, c'est ce qu'on a vu ce matin, n'est-ce pas? Mais maintenant, allons un peu plus loin. Et ressusciter des morts. Et ressusciter des morts. Il leur a prêché la résurrection. Jésus est mort pour payer notre dette. Mais s'il n'était pas ressuscité des morts, est-ce que sa mort aurait été valable?
Eh non.
Il était en train de prêcher à des idolâtres. À Thessalonique, il y avait beaucoup d'idoles. Et ces idoles, il leur a certainement prêché, nous allons le voir tout à l'heure. Ces idoles sont mortes. Ces idoles ne peuvent rien faire pour vous. Il leur a dit, mais vous priez des idoles. Mais ces idoles, que peuvent-elles faire pour vous? Rien du tout. Mais moi, je vous annonce quelqu'un qui est mort pour vous, mais qui est ressuscité des morts et qui est vivant aujourd'hui. Romains 4, 25 nous dit que Christ est ressuscité après nous avoir justifiés. Quand il est dit, il est mort pour nous notre justification, c'est pas bien clair. Le texte veut dire, Christ est mort pour nos péchés après nous avoir justifiés. Ça veut dire que la résurrection prouve que Jésus a bien porté nos péchés et que le Père a accepté ce verdict. C'est comme si le Père disait, maintenant, au monde entier, vous avez crucifié mon fils. Vous avez fait de lui le rebelle, celui qui ne valait plus rien du tout. Vous l'avez rejeté, vous l'avez humilié publiquement, et vous avez pensé qu'il se moquait même de Dieu. Mais moi je vous dis que celui que vous avez rejeté, c'est celui-là même que moi j'accepte. Et que j'ai accepté pour le pardon de vos péchés. Et pour vous prouver que ce qu'il a fait sur la croix m'a parfaitement satisfait. Eh bien, je le ressuscite d'entre les morts. Alléluia.
Alléluia.
Si Jésus, si le Père n'avait pas accepté le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés, il ne serait jamais ressuscité le Seigneur. Jamais. Pas de résurrection. Il n'est pas ressuscité comme ça pour nous ressusciter. Il y a toujours un sens dans tout ce que Dieu fait. Et il fallait qu'il en soit ainsi. Parce que quand Jésus est mort, il était rejeté par tous. Il fallait une justification nationale, j'allais dire, à ce moment-là. Pierre, après, on ne va pas revenir dans les actes, à la Pentecôte, et puis après, c'est combien de fois il revient, j'ai lu tout cela. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité. Il pensait que Jésus était rejeté par Dieu. Il pensait que Jésus était un faux Messie. Vous comprenez? Alors il fallait que ça change dans leur tête un peu, à ces judaïsants. Et Pierre le dit avec conviction, ce Jésus que vous les avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, Dieu lui est d'accord. Dieu est d'accord. Et si vous voulez être d'accord,
avec Dieu, il vous faut accepter le sacrifice de Jésus pour le pardon de vos péchés. Sinon, votre péché demeure sur vous. La résurrection est importante parce qu'elle est la preuve que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu le Père. C'est comme s'il disait maintenant, la peine a été payée, l'offrande a été parfaite, il a payé le grand prix pour nous sauver, je l'accepte. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. J'accepte ce sacrifice pour le pardon des péchés des hommes. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Le texte littéral veut dire, tout est parfaitement parfait. Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Pas tes larmes, pas tes prières, pas ta petite religion à côté. Pas tes petites choses encore, tes petites combines, ça ne marche pas. Ben oui, mais j'ai ma petite religion, ça ne marche pas. Ta religion ne te sauvera jamais. C'est le sang de Jésus qui sauve. L'as-tu compris? Des multitudes n'ont pas compris encore. Tout est accompli. Si tout est accompli, cela veut dire, Seigneur, tu as porté mon péché. Tu as payé ma dette que je ne pouvais pas payer. Ne cherche pas à payer ta dette que tu ne pourras jamais payer. Et de plus, elle est déjà payée. Que tu veux payer encore? Mais tu déshonores Dieu en voulant payer quelque chose que Dieu n'acceptera jamais et que Dieu a déjà payé. Vous voyez la contradiction? La confusion? Tout est parfaitement parfait. À celui qui reconnaît son péché, qui s'en humilie, qui reconnaît qu'il ne peut se sauver lui-même et qui met sa confiance dans le sacrifice parfait de Jésus, Dieu accorde le pardon parce qu'il est le sauveur, ton sauveur. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Vous pensiez qu'il était rejeté par Dieu, mais c'est le contraire. Dieu a prouvé son ministère en le ressuscitant des morts.
Alléluia.
Alléluia. Jésus est le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Personne dans le ciel ne pourra dire un jour, moi je suis au ciel à cause de ma religion, à cause de mes bonnes œuvres. J'ai été un gentil monsieur, une gentille petite dame. J'ai toujours fait le bien, hein, tu as toujours fait le bien. Et Dieu dit que tu as toujours fait le mal. Il n'y a pas un juste,
pas même
un seul.
Non.
Et s'il n'y en a pas un seul, cela veut dire que tous sont perdus.
Voilà.
Ça, c'est un coup terrible à l'homme religieux. Parce que l'homme religieux pense qu'il est bien, qu'il fait des bonnes choses et qu'il est toujours un peu meilleur que les autres. Mais tu n'es pas meilleur que les autres. Même l'homme religieux est rebelle, pécheur et a besoin de se convertir.
Amen.
La preuve, Nicodème, ce docteur en Israël, il lui a dit, ne t'étonne pas de ce que je te dis, tu dois naître de nouveau. Un docteur en Israël. S'il avait dit ça à la Samaritaine, par exemple, on aurait compris, tu dois naître de nouveau. Mais un docteur en Israël, qui enseignait même la religion, Nicodème, il enseignait la religion et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau, sinon tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Même un chef religieux, voyez-vous, aux yeux de Jésus est perdu, s'il ne naît de nouveau. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est sa droiture. Et son intégrité. Il n'a jamais passé de pommade dans le dos. Il n'a pas dit à Nicodème, oui, je vois que tu as une grosse influence ici. En Israël, tu es un docteur extraordinaire. C'est bien, continue, c'est pas grave, tout va très bien. Tu pries, tu demandes aux gens de prier trois fois par jour, je ne sais quoi, c'est bien, continue. Est-ce qu'il a fait ça, le Seigneur?
Non.
Est-ce que les apôtres ont fait ça?
Non.
Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs font ça. Vous voyez qu'on nous prêche un autre évangile. Il faut bien faire attention. La Bible parle d'un autre évangile, d'un autre Jésus. Quand on a parlé de Jésus, le Fils de Dieu, j'ai oublié de vous dire que certains dépeignent Jésus comme un petit enfant encore. C'est pas vrai?
Dans
les bras de Marie.
Oui.
Jésus. C'est pourquoi il prie Marie. Ben, mais Jésus, c'est un petit enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire un petit enfant? On prie pas un petit enfant. C'est la mère, vous voyez. Regardez comme on a déformé la personne de Jésus. Jésus a été un petit enfant, c'est vrai. Mais il ne l'est plus maintenant.
Ah non.
Et c'est lui qui te jugera et qui me jugera un jour. Ne l'oublions pas. Jésus n'est plus ce petit enfant. Bon, allons un peu plus loin. Il croit en la résurrection de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui a frappé ces Thessaloniciens qui suivaient des idoles. Jamais ils n'ont entendu parler de résurrection parmi les idoles. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un message révolutionnaire. Cinquième vérité importante. Alors maintenant, on revient à 1 Thessaloniciens. Vous voyez, ça c'était le contexte. Maintenant, on va voir le texte. Il faut bien faire attention. Un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Je dis souvent, il faut vous en rappeler de ça. Un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Souvent, on nous donne des textes, mais en dehors de leur contexte. Savez-vous que vous pouvez faire dire à la Bible tout ce que vous voulez?
Eh oui.
Si vous sortez des textes hors de leur contexte, vous pouvez dire à la Bible ce que vous voulez. Alors, on en est où? Alors, oui, 1 Thessaloniciens 1:9. Alors, on arrive maintenant à ce point-là. On raconte. La nouvelle est extraordinaire. Un autre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Alors ici, il y a une vérité importante qui est celle-ci. Cinquième vérité, ils se repentent de ses péchés et abandonnent ses idoles. Ils se sont convertis en abandonnant les idoles. Vous voyez que la foi chrétienne, c'est pas seulement intellectuel, comme ça. Je crois en Jésus, puis il n'y a rien qui change. Moi, mon papa, dans ma famille, c'était comme ça. Mon père, mon grand-père et tout ça. N'avons-nous pas entendu cela? Moi, je suis né dans telle religion, je mourrai dans telle religion. Ouais, bah, tu vas mourir dans telle religion, oui, si tu continues comme ça. Et tu vas effectivement mourir. Mais pour aller où? Pour aller en enfer. Il y a des multitudes se morfondent en enfer. Parce qu'ils ont cru ce mensonge. Si tes parents t'ont trompé par erreur, n'accepte plus ce mensonge.
Ben oui.
Tu as la lumière maintenant. Secoue-toi. Alors, il se repent de ses péchés. Et vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Alors, dans l'expression abandonnant les idoles, il y a tout le message de la repentance. De la repentance. C'est pourquoi dans Acte 26, 20, c'est un passage très important pour Paul, parce qu'on voyait qu'il prêchait cela partout. C'est pourquoi dans ce texte que nous venons de lire, il faut mettre ce verset, Acte 26, 20, un verset très important pour l'apôtre Paul, partout il allait pour prêcher l'évangile. Acte 26, 20. On peut lire à partir du verset 19 déjà. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, donc du chemin de Damas, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens. Qu'est-ce qu'il est dit ici? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Regardez ici. Avant la conversion, il y a la repentance. Jésus l'a dit, si vous ne vous repentez pas,
vous périrez tous. Donc la repentance est obligatoire pour être sauvé.
Oui.
La repentance, c'est pas le remords. Judas a eu du remords.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Alors, on peut avoir du remords et puis aller se pendre. Pierre s'est repenti et il est allé, il a pleuré quand Jésus lui a parlé.
Oui.
Il pleura amèrement, il est dit. Pierre, lui, s'est repenti. Ce n'était pas du remords, mais une profonde repentance. La repentance est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu.
C'est une douleur.
Bien sûr. Dans la repentance, il y a cela. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Vous vous souvenez de David quand il a péché et qu'il a été convaincu de ce péché. Qu'est-ce qu'il a dit? La première des choses qu'il a dit: « Ô Éternel, pardonne-moi d'avoir fait du mal à, au mari de... » ou à madame, comment elle s'appelle?
Bathsheba.
Non, non. Il n'a pas commencé par madame. Il a commencé par Dieu. « Ô Seigneur, j'ai péché contre
toi. » Contre les ciels et contre toi.
« J'ai péché contre toi. » Là, il y avait une vraie repentance. Parce que tant qu'on ne réalise pas qu'on a péché contre Dieu, on ne changera pas.
Ah, voilà.
Tu n'abandonneras pas ton péché. Parce que tu te compares aux autres. Et tu dis, moi, je ne suis pas si mauvais que ça. Tu es tout le temps en train de te comparer aux autres. Et tu te vois toujours meilleur que les autres. Tu risques pas de te repentir. Au contraire, tu t'endurcis même. Et tu t'enorgueillis même. Mais quand on dit, j'ai péché contre toi. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. C'est déshonorer Dieu. C'est déshonorer la personne de Dieu. Ton péché, tout ce que tu as fait a déshonoré Dieu. Comprends cela. Si tu ne comprends pas cela, jamais tu ne te détourneras de ton péché. La repentance implique la douleur d'avoir offensé, mais aussi la confession du péché à Dieu que l'on a offensé. Pas seulement la douleur, mais aussi la confession à Dieu. Pas aux hommes. La Bible ne parle pas de cela. Qui peut pardonner tes péchés? Encore une fois, c'est une doctrine diabolique. Des hommes qui disent à quelqu'un, je pardonne ton péché, c'est le plus grand des mensonges. Il prend la place de Dieu, de Jésus. C'est un usurpateur. Et cette parole ne vous consolera jamais, ne doit pas vous consoler. Vous ne devez pas rester sur ces paroles-là d'homme. Ton péché subsiste tant que tu ne l'as pas confessé à Dieu pour l'abandonner. David disait dans le psaume 32, 1 et 5, c'est un passage extraordinaire. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient en moi. Je gémissais jour et nuit. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mes péchés. Tant qu'il ne confessait pas son péché, il était brisé par la douleur. Le péché ne s'en va pas comme ça, mes amis. Parce que c'est un péché qui a été commis contre Dieu. Et Dieu doit intervenir pour régler le problème du péché. Si tu penses le régler toi-même ou le régler avec quelqu'un d'autre, tu te trompes. Le péché a d'abord une relation morale, spirituelle avec Dieu. Et tant qu'on ne voit pas cette dimension verticale, nous n'en sortirons jamais. Tant que je me suis tu, David n'a pas tout de suite péché. Confessé son péché, n'est-ce pas vrai? Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Comme il est roi, il s'est dit peut-être que ça peut passer. Il est roi. Je suis un roi, je peux faire ce que je veux quand même en tant que roi. Non, David, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as de grands privilèges, mais tu as aussi de grandes responsabilités.
Voilà.
Hein? Tu retiens que tes privilèges, toi. Mais si Dieu t'a placé là,
c'est parce à cause des responsabilités. D'abord, et il pensait que ça pouvait passer. Ça a duré un certain temps. Et comme ça ne venait pas, Dieu a envoyé un prophète. Comment il s'appelait ?
Nathan.
Nathan, exactement. Et il est allé le voir et il a fait toute une petite illustration, n'est-ce pas, avec la brebis d'un pauvre. Et un homme riche qui avait, il voulait faire un sacrifice. Il pouvait prendre des brebis là, auprès de lui, enfin oui, de lui, ou qui était riche. Et puis il est allé prendre ça auprès d'un pauvre. Et quand Nathan lui a dit ça, tu te rends compte, cette personne, cette personne-là mérite la mort. Et Nathan, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Tuez cet homme-là. C'était une flèche qui pénétrait son cœur. Ce qu'il a caché était dévoilé. Tôt ou tard, ton péché sera dévoilé.
Ah oui.
Mon péché, s'il n'est pas couvert par le sang de Jésus, ne l'oublie pas. Tu peux cacher beaucoup de choses, mon ami. Tu peux en cacher beaucoup.
Aux hommes.
Mais aux hommes. Mais devant Dieu, jamais.
Eh non.
Devant Dieu, jamais. Découvre ton péché, si tu veux que Dieu le couvre par son sang.
Amen.
Découvre-le.
Je dis ça.
Il n'y aura pas de pardon tant que tu ne découvres pas ton péché. Tuez cet homme-là. Et il n'a pas résisté, n'est-ce pas ?
Eh oui.
Mais quelle tragédie ! Dieu lui a pardonné et tu as effacé la peine de mon péché. Mais laissez-moi vous dire, il y a eu des conséquences après, n'est-ce pas vrai ?
Eh ben oui, quand même.
Et dans sa famille, c'était beaucoup de problèmes sexuels qui se sont accumulés.
Oh oui.
Avec Salomon et les autres dans la famille, il y a eu de l'inceste, il y a eu un peu de tout. Voyez-vous ?
Il a récolté ce qu'il avait semé.
Oui, une porte au mal a été ouverte.
Eh oui.
Il a été pardonné. L'enfant est mort. Mais les conséquences sont là. Ne l'oublions pas. Ouvre ton cœur, ne cache rien. Dis tout à Jésus. Ne ferme pas ton cœur à sa grâce. Il veut te purifier, mais ne pourra pas le faire si tu ne confesses pas ton péché. Il ne faut pas seulement le confesser, il faut aussi l'abandonner. Amen. Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais qui les avoue et les
délaisse
obtient miséricorde. C'est pas seulement qui les avoue. Il y en a beaucoup qui sont devenus spécialistes pour confesser leurs péchés. Mais ils sont spécialistes aussi pour ne pas les abandonner. Une fois qu'ils ont confessé leurs péchés, ils s'en vont et ils recommencent. On leur a fait croire que c'est comme ça, qu'on peut confesser, recommencer. Ça, c'est les hommes qui ont trouvé cette solution-là, qui n'en est pas une. Mais avec Dieu, ce n'est pas cela. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dieu ne peut pas te bénir avec une telle conception, c'est impossible. Ne prospère point. Dieu mettra toujours des obstacles sur ta route pour t'arrêter sur ce chemin de la destruction, de l'illusion. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. David a bien compris cela. Et loin de prospérer, il se détruisait. Mes os se consumaient. J'ai dit, j'avouerai. La confession est une libération. Alléluia.
Amen.
Mais elle doit être suivie de l'abandon du péché. De l'abandon du péché. Amen. Fais bien attention de ne pas tomber dans ce piège de dire que tu vas confesser. Que tu confesses, mais que tu recommences toujours la même chose. Devant Dieu, il n'y a rien de pardonné. Tu peux confesser toute ta vie comme cela. Aucun péché ne sera purifié. Aucun homme ne peut te purifier de tes péchés. Aucun. Alors n'essaye pas de te mettre bien avec le responsable. À lui donner des petits sous de temps en temps, faire des petites... lui donner un peu quelques dollars pour qu'il fasse des prières et qu'il soit gentil avec toi. C'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas acheter ton salut, il coûte trop cher. Tu ne peux pas acheter ton salut, il coûte trop cher. Tu peux laisser 1 million pour qu'on prie pour toi. Tout cet argent n'arrivera pas à enlever 1 gramme de ton péché et de ta souillure. Ce n'est pas ton argent qui purifie, c'est le sang de Jésus.
Seulement.
Le sang de Jésus. Mais il purifie celui qui se repent.
Eh oui.
Qui confesse et qui abandonne. Amen. La vraie repentance nous conduit à une complète soumission à Dieu. Maintenant qu'on a confessé, c'est maintenant, me voici Seigneur, je suis à toi pour faire ta volonté. Voyez-vous, c'est pas confessé pour dire maintenant, voilà, je par acquis conscience, j'ai tout bien, j'ai fait mon devoir religieux. Et maintenant, je continue ma petite vie. Ça ne marche pas. Ça, c'est la religion qui enseigne ces choses. Et beaucoup sont imprégnés de cela. La vraie repentance nous conduit à une complète soumission à Dieu. Autrement dit, à Dieu, à sa parole. Parce qu'on peut dire, moi, je me soumets à Dieu. La preuve que tu te soumets à Dieu, c'est que tu te soumets à sa parole. Parce que n'importe qui peut dire qu'il se soumet à Dieu, vous êtes d'accord avec moi. La preuve, c'est toujours la parole. Si tu ne te soumets pas à la parole, ça veut dire que tu ne te soumets pas à Dieu. Il faut que ce soit clair. Ah oui, mais moi je me soumets à Dieu. Bon, tu es quelqu'un de spécial, toi. Tu te soumets quand même à Dieu en désobéissant à la parole. Mais t'es encore une drôle de personne. Il faut que je te prenne en photo, vraiment. L'homme est né avec son dos tourné vers Dieu. L'homme est né. Vous êtes né, moi aussi. Le dos tourné vers Dieu.
Tourné à Dieu
Non, tourné contre Dieu, si tu veux.
Oui, contre Dieu. Voilà,
Dieu
c'est
oui.
ça. Contre pas Dieu. Vers Dieu, parce que sinon...
Oui, c'est là. Oui, contre Dieu.
Voilà. Comme c'est ça. Pas, c'est pas le bon mot. Sinon.
Voilà, contre Dieu. Mm-hmm. Mais lorsqu'il se repent réellement, il tourne son dos au péché et sa face vers Dieu pour vivre une vie nouvelle.
Voilà.
Tous, quand nous sommes nés avec le dos tourné contre Dieu.
Voilà.
Et quand on a le dos tourné contre Dieu, c'est-à-dire que le soleil est derrière nous, puisqu'on a, si le soleil représente Dieu, alors le soleil est derrière, tu lui as tourné le dos, quand le soleil est derrière, l'ombre est toujours devant toi. Ton péché est toujours devant toi.
Oui, c'est bien cette image-là.
Mais lorsque tu te convertis, tu te tournes vers le soleil. Et quand tu regardes le soleil, l'ombre,
elle est derrière toi,
elle n'est plus devant toi.
C'est beau ça, c'est très beau ça.
Non, l'ombre est derrière toi, c'est fini. Quand tu regardes le soleil, l'ombre n'est pas devant, et c'est derrière. Tourne le dos, tout est devant toi. Tu n'étais pas converti, ton péché est devant toi et il te retrouvera. La repentance, ce n'est pas seulement avoir le cœur brisé à cause du péché, mais aussi rompre avec le péché. C'est pas seulement avoir le cœur brisé à cause du péché, mais rompre avec le péché. Alors maintenant, dans ce point-là, il y a la repentance et l'abandon des idoles. C'est curieux que la Bible parle là d'abandon des idoles. Donc c'était des idolâtres. Et aujourd'hui encore, l'idolâtrie est quelque chose de... qui court les rues, j'allais dire, n'est-ce pas vrai? On le voit à la télévision du matin au soir. Et si on ne fait pas attention, on s'habitue à tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? On est là, vous voyez le bouddhiste par-ci, l'autre par-là, et on allume des cierges par-ci, par-là. On est là entouré d'idoles. C'est comme Paul à Athènes. Il était très attristé au fond de lui-même de ce qu'il a vu, une ville pleine d'idoles. Et les Thessaloniciens étaient des idolâtres. Et aujourd'hui, prenons un exemple toujours précis. Dans le christianisme, Marie et les saints, que certains prient continuellement, ils ne prient pas Dieu, ils prient des idoles. Et nous allons voir pourquoi Dieu était si sévère avec les idoles. Là, il est dit qu'il devait abandonner les idoles pour pouvoir se convertir. Le premier commandement, en parlant d'Israël déjà, les deux grands péchés d'Israël, vous savez lesquels c'était ? C'était la rébellion et l'idolâtrie. Quand on se rebelle contre Dieu, ça veut dire que, tôt ou tard, on se détourne de lui pour aller servir des démons. Les dieux étrangers ne sont que des idoles, nous dit la parole de Dieu. Donc, et les idolâtres, j'ai noté Apocalypse 22, 15, seront exclus du royaume. Attention, on ne rigole pas avec ça. Apocalypse 22, 15, les idolâtres, il y a un peu tous là, tous des péchés, mais le dernier qui est nommé, c'est et les idolâtres. Comme pour dire, retenez bien celui-là. Parce qu'il y en a beaucoup à l'enfer maintenant. Retenez bien cela. Et le premier commandement, des 10 commandements, c'est quoi ? Je suis, Exode 20, les premiers versets, Exode 20. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la main de la main de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation et tout cela. Voilà. Ensuite, tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Parce que quand on commence à prier des idoles, automatiquement, on est poussé à les servir. Parce que derrière chaque idole, la Bible dit bien, il y a un démon. C'est pourquoi les idolâtres ont beaucoup de peine à se défaire de cette idolâtrie. Si vous réussissez quelqu'un à ce qu'elle abandonne, ou à ce qu'il abandonne, d'adorer, d'honorer, ou de se prosterner devant Marie, eh bien, vous aurez dû il a retordre.
Oui, parce que c'est un démon qui est derrière.
Parce que, vous verrez,
derrière Marie.
Vous frappez la tête contre les murs.
Oui, c'est sûr, absolument.
Il y a un passage dans Jérémie qui dit « Ils sont fous de leurs idoles. Ils sont fous.
Oui. »
Pour que quelqu'un se détache de cette idole, il faut vraiment que la personne se repente sincèrement et obéisse à la parole de Dieu. Je reviens juste sur le premier commandement, les 10 commandements. « Je suis l'Éternel. »
Ton Dieu.
Écoutez bien là, il y a là quelque chose d'important pour nous découvrir la gravité des idoles devant Dieu. Et pas seulement d'avoir prié Marie devant une statue comme ça. Porter une médaille de Marie, c'est la même chose. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'il exterminera les idolâtres. C'est plus grave que nous ne le pensons. Et pourquoi ? Il y a une raison. Quand il est dit « Je suis l'Éternel », ton Dieu, soulignez bien cela, ton Dieu. Il y a là un point important, ton Dieu. Israël a toujours eu une relation avec Dieu comme une relation d'une épouse avec son époux, n'est-ce pas vrai ? Et quand il dit « Je suis ton Dieu », c'est comme s'il disait « Je suis ton époux ». Et si tu vas auprès d'autres idoles, tu m'es infidèle. C'est comme si tu allais auprès d'autres femmes, alors que tu es marié avec moi.
Marié avec Jésus.
Avec Dieu. Et le fait de prier d'autres idoles, la Bible parle de cela comme d'un adultère spirituel.
Oui, c'est ça.
Vous comprenez ? Imaginez que votre femme vous dise, tu sais, je t'aime beaucoup, hein. Mais de temps en temps, moi j'ai mon petit gars par-ci, par-là. Vous serez content ? Et sa confession de dire qu'elle vous aime, est-ce que ça vous plairait ? Est-ce que ce serait acceptable ? Et nous pensons, sinon nous ne pouvons pas accepter cela. Comment Dieu peut-il, lui, l'accepter ? Qui est saint ?
C'est ça.
Cela révèle une ignorance totale
de
la sainteté de Dieu.
Oui, c'est ça.
Et une conception erronée de la personne de Dieu.
Oui.
Israël, il y a des passages qui disent, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. J'ai oublié de mettre la référence, je ne sais plus où elle est. Mais voilà le passage. Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère. Vous voyez où l'adultère, l'expression ? Avec quoi ? La pierre et le bois. Avec la pierre, vous faites des statues là, de personnes, d'animaux, de n'importe qui. Du bois aussi. Elle a souillé, elle a commis un adultère. Quand tu pries Marie ou les saints, tu commets un adultère. Dieu, écoutez bien cette pensée, Dieu exige que notre amour pour lui soit total. Comme un époux l'exige de la femme qui lui a juré fidélité. Je répète, important. Dieu exige que notre amour pour lui soit total. Comme un époux l'exige de la femme qui lui a juré fidélité. Et bien sûr, cette pensée est valable dans les deux sens, n'est-ce pas vrai ? Mais ceci pour vous dire que prier une idole, se prosterner devant une idole, faire ça, c'est déjà commis. Tu as commis adultère. Un adultère spirituel. Ou une autre personne, que c'est saint ou mari. Un ange ? Un archange ? Ou je ne sais quoi ? Tu pries une autre personne que Jésus est le Père. Tu es un adultère spirituel. Tu commets un adultère spirituel. L'idolâtrie est plus grave que vous ne le pensez. David disait, je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Psaume 31:7. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Jérémie 8:19. En parlant de Dieu, ils m'ont irrité par des idoles étrangères. Michée 5:12, j'exterminerai les idoles et les statues. Et voilà une autre pensée maintenant importante. Parler aux idoles, écoutez bien, une autre raison qui fait que nous ne devons jamais faire cela. Parler aux idoles, c'est parler aux morts. Et parler aux morts, selon la Bible, c'est de la nécromancie. La nécromancie, c'est parler aux morts. Dieu considérait ce péché comme abominable. Et c'est pour cela que Dieu avait ordonné à Israël d'exterminer les nations. Parce que c'était des idoles et des idolâtres qui étaient là, qui ravageaient le pays et qui détruisaient le pays. Deutéronome 18:13. C'est une abomination devant Dieu. Les personnes qui interrogent les morts. Deutéronome 18:11. C'est une abomination devant Dieu. Et le passage se termine. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il n'y a donc pas de demi-mesure, mes amis. Il faut donc veiller à cela. En abandonnant les idoles. Qui que tu sois, tu pries. Et qui n'est pas le Seigneur ou Dieu le Père, c'est une idole et de l'idolâtrie. On peut aller plus loin. Sixième point, abandonnant les idoles pour se convertir à Dieu. Toujours 1 Thessaloniciens 9, c'est le sixième point. Il se convertit à Dieu par Jésus-Christ. Écoutez bien maintenant. Il se convertit non pas à une église, mais à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église qui est morte pour toi. Ce n'est pas Marie qui est morte pour toi. Ce ne sont pas les saints qui sont morts pour toi. C'est Jésus. Pourquoi t'attaches-tu à de vaines idoles ? Tu commets adultère, et aucun adultère n'ira au ciel. On ne se convertit pas à une église, à un mouvement, à un homme. C'est à Dieu par Jésus-Christ. Et combien disent-moi, je mourrai, je suis né dans telle catholique, dans telle religion, en parlant de l'église catholique, disons, eh bien je resterai dans ma religion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'es converti à l'église catholique. Alors, si tu es converti à l'église catholique, tu n'es pas converti à Dieu, ni à Jésus-Christ. Il faut te rendre à l'évidence. Tu ne peux pas avoir les deux. L'un est plein d'idoles, et l'autre, c'est le temple du Dieu vivant. Tu ne peux pas mélanger les deux. Les hommes font cela, mais Dieu te l'interdit, car Dieu est un Dieu saint. comme un homme ne peut séparer que sa femme et plusieurs amants. Il en est de même de Dieu. Il ne supportera pas cela. Il exterminera les idoles. S'il ne te reprend pas, il t'exterminera toi aussi. En allant en enfer, tu es responsable. On se convertit à Dieu et non à une église, parce que c'est Dieu que vous aviez offensé et contre lequel nous nous sommes rebellés. Voilà pourquoi on doit se convertir. Et la conversion est un changement complet d'orientation, une volte-face. Vous alliez dans telle direction, c'est un demi-tour complet. Une volte-face pour aller dans l'autre direction. Donc quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un dont la vie a changé. J'ai entendu une fois, en posant la question, est-ce que vous êtes converti ? Ah, je me convertis tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? On se convertit qu'une fois dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça ? On se convertit tous les jours. On ne se convertit pas tous les jours. On se convertit une fois au Seigneur. On change de direction et on suit le Seigneur. Si tu te convertis tous les jours, ça veut dire que tu ne t'es jamais converti selon la parole de Dieu. Tu peux continuer de te convertir tous les jours. Ça ne sert à rien du tout. Continue.
Perds ton temps. Hein.
Si tu te convertis tous les jours, ça veut dire qu'un jour tu changes de direction, tu vas dans là, et tu te convertis le lendemain, tu retournes là. Ça veut dire que tu tournes en rond.
Ah oui, exactement.
Un demi-tour, comme c'est un demi-tour, la conversion. Ah, tu t'es converti aujourd'hui, oui, ah, ben, ça y est, j'ai fait volte, c'est bon, maintenant, je suis dans le diable. Et puis le lendemain, tu te reconvertis encore, tu reviens à zéro. Regardez ça, le diable aime nous faire tourner en rond.
Terrible, hein.
Et si tu te convertis tous les jours, tu tournes en rond tous les jours.
Voilà.
Tu perds ton temps et tu perds ta vie. Le pécheur sur la voie de la perdition s'arrête à un moment donné et fait résolument un demi-tour pour marcher désormais sur le chemin de la vie éternelle. Amen.
Amen.
Cette conversion est absolument nécessaire au salut. La conversion est nécessaire. Jésus a dit... Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, 3. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus. Car l'homme le plus moral et le plus religieux est encore un pécheur. C'est-à-dire en révolté contre Dieu. Mort dans ses fautes et dans ses péchés. Même s'il a été baptisé et confirmé, il aura toujours besoin... comme ce chef religieux Nicodème, de la conversion et de la nouvelle naissance, sans laquelle il n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Septièmement, il est décidé à servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a lu ?
Amen.
Il est décidé à servir le Seigneur. Acte 17, non, un Thessalonicien, 2:1-9, qu'est-ce qu'il est dit ? Vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Après, qu'est-ce que vous avez ? Pour ?
Pour servir
Dieu. Voilà, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils. Il est décidé à servir Dieu. Quelqu'un qui a vraiment converti et qui sait qu'il a servi des idoles, déshonoré Dieu, quand il se convertit, il n'a qu'un désir. Maintenant, autrefois, j'ai servi les idoles. Maintenant, je veux servir mon Dieu. Et vous l'avez remarqué, il est dit, pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et ça, c'est un rapport aux idoles, parce que les idoles sont mortes. C'est comme Paul leur disait, vos idoles sont mortes, mais maintenant, le Dieu que vous servez, c'est un Dieu vivant. Alléluia.
Amen.
Vivant et vrai. Vos idoles, c'était du mensonge.
Voilà.
Maintenant, enfin, vous avez découvert le vrai Dieu, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par
moi.
Oh, alléluia. Il sert Dieu. Un chrétien qui ne sert pas Dieu, c'est quelqu'un qui tourne en rond et qui manque quelque chose dans sa vie spirituelle. Quand on se convertit, c'est pour servir Dieu. Dans le temps, il y avait un slogan qu'on disait du temps de ma conversion, sauver pour
servir.
Servir. Mm-hmm. Ça, on ne l'entend plus maintenant.
Ah non.
On l'entend plus. Ah, maintenant, c'est sauver pour s'amuser. C'est sauver pour se divertir, comme
oui.
On l'a vu ce matin.
Oui, voilà.
Non, c'est sauver pour se divertir, mais pas pour servir.
Passer un bon temps.
Pour passer un bon temps.
comme on dit ici.
Hein. Et on est complètement à côté de la course. Pour servir maintenant, comme tu as servi les idoles, tu t'es servi toi-même. Maintenant, tu dois servir ton Dieu. Et tous, nous pouvons le faire et nous devons le faire.
Amen.
Mais vous dites, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dis, Seigneur, me voici. Je veux te servir. Vous verrez qu'il vous donnera
il vous
un travail
conduira.
À faire. J'avais lu une fois l'histoire. Je termine maintenant, je ne veux pas être trop long. Non. Je termine. L'histoire d'une dame qui était complètement paralysée et qui était dans une chaise roulante. Vous savez ce qui se passait? Tout son corps était paralysé. Elle n'avait qu'un doigt qui bougeait un petit peu. Et là où elle était, au troisième étage de sa maison, complètement paralysée, on lui a donné une machine à écrire. C'était dans le temps. Elle a dit, il faut que je fasse quelque chose pour mon Seigneur. Et vous savez ce qu'elle a fait? Dans sa journée, elle passait du temps à taper des versets avec son doigt. Des versets bibliques. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde. Elle tapait un verset. On lui dit, et elle demandait à ces personnes après auprès d'elle d'en faire un petit, de les plier, et puis elle jetait ça par la fenêtre. Et plusieurs ont été bénis en voyant ce petit mot, ce message extraordinaire. Voyez-vous, si elle pouvait faire cela avec un petit doigt, vous avez tous vos membres. Ne restez pas inactifs.
Amen, amen, amen.
Faites quelque chose pour le Seigneur.
Ah oui.
Vous êtes sauvés pour servir.
Amen.
Si vous n'êtes pas au service de Dieu, et je termine, le diable vous donnera du travail.
Oui.
Le diable vous en donnera du travail. Un vrai chrétien ne chôme pas. Si tu chômes, c'est que il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas quoi faire de tes journées. Ce n'est pas normal.
Ouais, non.
Ce n'est pas normal. Dis, me voici, Seigneur.
Oh oui.
Je n'ai pas grand-chose. J'ai 5 pains et 2 poissons. Je n'ai pas grand-chose. C'est ce que j'ai dit un jour au Seigneur. Quand il m'avait adressé cet appel, j'ai dit, mais Seigneur, je suis un jeune homme timide. Je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. J'ai été conduit à lire le passage du jeune homme avec ses 5 pains et 2 poissons. C'est comme si je disais au Seigneur, mais Seigneur, j'ai que 5 pains et 2 poissons, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Et il m'a dit, donne ces 5 pains et ces 2 poissons que tu as. À tes yeux, ce n'est pas beaucoup, mais donne-les. Et j'ai vu que Dieu a multiplié ces 5 pains. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nous pouvons nourrir des multitudes de personnes. Tu n'auras aucune excuse devant Dieu un jour. Dieu a donné un talent à tous. Que fais-tu de ton talent? Là où le Seigneur est-il le plus sévère, c'est avec celui qui a enterré son talent, sa mine. Et que je dis souvent, ceux qui enterrent leur mine ont une mine d'enterrement. Voilà pourquoi ils ont une mine d'enterrement, parce qu'ils ont enterré leur mine. Si tu enterres ta mine, tu auras une mine d'enterrement. Va déterrer ta mine. Fais quelque chose, demande au Seigneur et tu verras qu'il t'aidera. Il dit, Seigneur, je ne sais rien faire, mais je suis disponible. Ce que les autres ne veulent pas faire, je suis prêt à le faire.
Faire moi.
Je veux aller jusqu'au bout avec toi.
Ça qu'il faut dire.
Mes amis, vous n'aurez aucune excuse.
Oui.
Vous avez tous un talent. Si vous ne le faites pas fructifier, vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Faites quelque chose pour le Seigneur. Vous ne le regretterez jamais.
Oui.
Et à celui qui a un talent, Dieu lui en donnera 2. Et il fera fructifier tes talents. Mais à celui qui n'a rien, qui ne donne pas son talent, qui n'a rien, on lui ôtera même ce qu'il a. Donne et il te sera donné. On versera dans ton sein une mesure serrée, secouée, qui déborde. Il n'est pas question d'argent, là. Il y en a beaucoup qui ont traduit ça pour de l'argent, pour que ça fait rentrer des sous. Ça, c'est le pire mensonge. Et Jésus n'avait rien donné, il n'a pas donné de l'argent, vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'il a donné? les richesses les plus profondes, les plus merveilleuses. Il y a plus de bonheur à
donner
qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Finissez par donner et vous donner. Mm-hmm. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et vous montrerez que vous êtes vraiment converti. C'est cela, un converti. C'est pas quelqu'un qui tourne autour de lui-même et qui cherche à se divertir. Il est sauvé lui-même et il veut sauver les autres. Il veut aider ses frères, ses sœurs. Rien ne l'arrête désormais. Que Dieu vous bénisse et que rien ne vous arrête. Si Dieu vous a parlé, acceptez d'être repris par le Seigneur. Acceptez d'être sondé par lui. Dites, Seigneur, je te demande pardon dans tel ou tel domaine. J'ai fait erreur. J'ai fait fausse route. Je vais abandonner mes idoles qui sont en adultère devant toi. Seigneur, purifie-moi. Purifie mon cœur. Lave-moi. Et que toute ma vie désormais, purifiée par toi et ton sang, soit livrée à ton service et pour ta gloire, jusqu'à ce que tu reviennes.
Amen.
Il attend le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans l'attente du Seigneur, servez le Seigneur. Ne vous découragez pas, persévérez jusqu'au bout. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.
Amen.
Et moi, je voudrais juste ajouter ceci de la part du Seigneur. Si vous vous contentez, c'est une parole de sagesse, si vous vous contentez juste, si vous ne vous préoccupez que de vous nourrir spirituellement, mais qu'il n'y a pas de débouché vers l'extérieur, de cette nourriture que vous absorbez, vous pouvez absorber des tonnes de nourriture spirituelle, mais s'il n'y a pas d'écoulement, eh bien vous serez comme une mare, comme un étang, et ça finit par sentir mauvais.
Comme la mer morte.
Comme la mère morte.
Pourquoi elle est morte, la mère morte ? Parce qu'elle reçoit sans jamais donner.
Voilà, c'est ça. Et donc si...
Le Jourdain était une eau vivante parce que le Jourdain recevait l'eau et...
Et elle s'écoulait.
Elle la communiquait.
Et c'est pourquoi...
Mais la mère morte recevait l'eau sans jamais la donner.
Voilà.
Et beaucoup de chrétiens sont comme
ça. Sont comme ça aussi. Voilà, exactement.
Morts, sans fruits, stériles. Que Dieu nous aide à sortir de cet état-là.
Et dans la mesure où vous donnerez ce que vous aviez reçu, le Seigneur va pouvoir multiplier parce qu'il y aura d'autres besoins qui vont se créer,
donner,
ainsi de suite.
Et il vous sera donné.
Voilà. Mais si vous restez simplement à chercher à vous nourrir et à vous gargariser, je dirais, des choses de Dieu, eh bien, ça finira par stagner et par rester inactif et par mourir. Ça ne servira à rien. Vous pouvez aller à quantité de séminaires, quantité de réunions, ingurgiter tant et tant de messages, mais si ça ne débouche pas sur l'action, sur l'engagement, sur des choses concrètes, eh bien, vous perdez votre temps.
Juste un mot pour terminer. Un pas en avant dans l'obéissance vaut mieux que des années d'études.
Voilà. Eh oui, c'est ça.
Un pas d'obéissance.
Oui.
Un pas en avant dans l'obéissance vaut mieux que des années d'études.
C'est vrai, c'est vrai.
Que Dieu vous aide à marcher dans l'obéissance. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui
obéissent.
Si vous voulez la vie de l'Esprit, une vie abondante en Christ.
Oui.
L'obéissance est le chemin parfait qui nous conduit vers la bénédiction céleste.
Et comme Samuel l'a dit, si vous êtes décidé à servir, ne vous en faites pas, le Seigneur vous montrera comment il veut vous utiliser.
Amen.
Nous, on a commencé tout petit à prêcher à 2-3 soulards et 2-3 petits-enfants en Afrique sous un palmier. Et puis, regardez ce qu'il fait aujourd'hui. C'est lui qui a multiplié tout ça. Parce que nous n'avons pas cessé de donner. Et vous pouvez faire pareil.
Amen.
Et vous serez étonnés de ce que le Seigneur fera de votre vie.
Amen.
Si vous obéissez.
Amen. Seigneur, merci.
Levons-nous tous maintenant devant le Seigneur.
Oui.
Comme pour nous consacrer
à lui. Absolument. C'est ça que le Seigneur attend maintenant.
Comme pour nous consacrer.
Amen. Reconsacrons-nous au Seigneur.
Seigneur,
tous.
Nous voici. Oh, que Seigneur. Chacun prie à sa place maintenant.
Oui, Jésus. Amen.
Ayant un petit moment de prière.
Oui.
Disant, Seigneur Jésus,
amen.
J'ai entendu ta parole. Mm-hmm. Je veux maintenant mettre en pratique tout ce que tu m'as montré.
C'est vrai,
je veux
Jésus.
Surtout obéir et ne pas m'entêter dans mes idées.
Oh,
mais
Seigneur.
Je veux changer.
Oh,
je
Jésus.
Veux te plaire.
Oui.
Je t'ai tant de fois déshonoré, désobéi.
Mmh.
Maintenant,
Jésus.
Je veux me détourner de mon péché, de ma rébellion, de mon indifférence pour me tourner vers toi.
Alléluia, Jésus.
Et t'obéir joyeusement,
Alléluia.
Volontairement. Jusqu'à ce que tu reviennes.
Alléluia.
Pour faire ta volonté, non la mienne.
Amen, Seigneur. Amen. Oh oui, Seigneur, nous voici. Faible vase.
Gloire à ton nom.
Mais comptant sur ta force.
Alléluia.
Seigneur, l'essentiel, c'est que nous prenions une décision quand tu nous appelles.
Merci.
Et que nous ne fermions pas nos oreilles à ton appel. Et cet après-midi, tu nous as adressé un appel, celui de nous engager pour te servir. Eh bien, nous voulons te dire, Seigneur, que chacun puisse le dire pour lui-même.
Amen.
Seigneur,
Alléluia.
Me voici. Je suis prêt.
Amen.
Et Seigneur, nous savons que tu conduiras chacun et chacune dans la voie que tu as préparée pour lui et pour elle.
Amen.
Et que chacun de nous, nous serons étonnés de la multiplication de tes talents et de tes dons quand nous nous mettons à ta disposition. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est notre disponibilité.
Merci,
sois béni, Seigneur, sois loué et adoré.
Amen.